VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Fin du sommet du G20 à Hangzhou, dans l'est de la Chine. Dans le communiqué final de la réunion ce lundi, les dirigeants des plus grandes économies développées et émergentes du monde appellent à recourir davantage aux dépenses publiques et pas seulement aux assouplissements monétaires pour relancer une économie mondiale en berne. Ils exhortent aussi à doper l'innovation pour en faire un moteur de croissance. Les participants à la réunion se sont accordés pour s'opposer au protectionnisme, a également déclaré le président chinois Xi Jinping. Nous sommes tombés d'accord pour soutenir le système d'échanges commerciaux multilatéral, a souligné le leader chinois. Toujours concernant le sommet du G20, les participants ont exhorté l'ensemble des pays du monde à renforcer leur aide et à mieux coordonner les efforts internationaux pour s'attaquer à la crise des réfugiés et partager les charges correspondantes, selon le communiqué final de la réunion. Nous appelons à renforcer l'aide humanitaire en faveur des réfugiés et nous invitons tous les États, en fonction de leurs capacités propres, à intensifier leur aide aux organisations internationales compétentes, souligne le document. Mais il s'agit d'un engagement non contraignant, a averti aux diplomates européens sous couvert d'anonymat, en précisant qu'il s'agit d'une question de souveraineté. Ce n'est pas une obligation, déclare le haut responsable en question. La guerre en Syrie, qui a fait plus de 200 000 morts, a poussé à la fuite plusieurs millions de personnes depuis mars 2011, provoquant un désastre humanitaire qui a atteint les portes de l'Europe. Toujours concernant le G20, le président américain Barack Obama a déclaré ce lundi avoir eu des discussions productives sur la Syrie avec son homologue russe Vladimir Poutine, en dépit de l'échec annoncé des négociations russo-américaines pour trouver un accord sur cette crise. Nous avons eu des discussions productives sur ce à quoi pourrait ressembler une réelle cessation des hostilités, a souligné M. Obama après son entretien avec Vladimir Poutine en marge du sommet du G20 en Chine. L'Afrique maintenant, au Gabon, reprise des activités dans un calme précaire après plusieurs jours de paralysie totale due aux violences accompagnées de pillages massifs qui ont suivi l'annonce contestée de la réélection du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 27 août. Internet a été partiellement rétabli aujourd'hui à Libreville après 5 jours de coupure totale, mais les réseaux sociaux restent inaccessibles. L'on continue aussi de s'interroger sur le sort des personnes arrêtées après les émeutes de la semaine dernière. Dès l'État avec Jean-Rovis Dabani, notre correspondant à Libreville.
Près de 1500 personnes ont été arrêtées et selon le commandant-chef de la police nationale, il s'agit des pillards et des casseurs. C'est ce qui inquiète les avocats et les membres de la société civile. La situation des opposants reste floue puisque les 26 personnes retenues dans le QG de l'opposant Jean-Ping à Libreville ont été libérées après des négociations menées par le diplomate tunisien Abdoulaye Batili, qui est le patron du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Et on se souvient que dans son discours, le premier du genre depuis la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, Jean-Ping a appelé ses partisans au calme, réclamant à nouveau le recomptage de voix bureau par bureau, ce que ne prévoit pas la loi. Et samedi soir, le premier ministre a appelé les travailleurs à regagner leur bureau lundi matin. Mais à Libreville, le dispositif policier a été allégé dans les quartiers qui ont connu des violences, à l'exception du palais présidentiel, dont les accès sont restés bloqués par des blindés de la garde républicaine.
Maintenant, que pense la population de la victoire d'Ali Bongo Ondimba et des violences qui ont suivi? Notre envoyé spécial Idriss Fall a tendu son micro à des Gabonais qui, pour des raisons évidentes, ont voulu garder l'anonymat.
La victoire a été volée parce que le peuple gabonais en a marre. Et nous sommes fatigués de la famille Bongo. 50 ans au pouvoir, c'est trop. Le Gabon pourri, le Gabon couvert dans la pauvreté. Ali ne fait que s'enrichir avec ses amis. Nous ne voulons plus de ça.
Une grossière erreur de l'opposition, une grossière mascarade du pouvoir en place. Et après, on sait qu'il n'y aura pas de recomptage. On est parti pour 7 ans de souffrance encore. Moi, j'ai le sentiment que ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal parce qu'on est en face des gens qui sont rancuniers, des gens qui sont méprisants, des gens qui sont orgueilleux.
Il y a eu révolte tout simplement parce que les gens se sont rendus compte que la victoire du président Ping a été volée. Mais comme ça se passe en Afrique, tout ce que nous pouvons demander, c'est d'arrêter de tuer le peuple. Parce que c'est ce peuple-là qu'il va commander demain. Donc il ne faut pas qu'on puisse tuer ce même peuple et se retrouver pour qu'il y ait la paix. Nous voulons la paix.
Si les urnes ont parlé, les urnes ont décidé que c'est Ali Bongo qui a gagné, car cela nous tienne, même si évidemment on a parlé de fraude. Et le verdict est tombé, alors nous ne pensons plus aux élections. Nous devons passer à demain, que nous devons reprendre le boulot et que la vie continue.
Tout à fait, on est vraiment stupéfait et très sensible à la victoire. En tout cas, quand on ne sait pas ce qui s'est passé, on sait que la victoire ça a été donnée par la Sénat, c'est la voix du peuple. Et la voix du peuple, c'est ce qu'on doit respecter, c'est tout. Mais en tout cas, nous on est dans le quartier, mais nous ne sommes pas inquiets, ça va, ça marche.
Des réactions de Gabonais après les violences qui ont suivi la présidentielle du 27 août.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise au Soudan du Sud, l'intense pression internationale a fini par avoir raison de la réticence du président sud-soudanais Salva Kiir, qui a finalement accepté l'envoi de casques bleus supplémentaires dans son pays. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Le chef de l'État sud-soudanais et une délégation du Conseil de sécurité en visite à Djouba ont publié dimanche un communiqué conjoint dans ce sens. 4000 casques bleus fournis par divers pays africains seront chargés de sécuriser la capitale sud-soudanaise et de protéger les civils. Ils auront un mandat plus robuste que celui des 12 000 soldats de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS, qui ont été critiqués pour n'avoir pas été capables de protéger la population lors des violents affrontements de juillet entre la garde rapprochée de l'ex-vice-président sud-soudanais Riek Machar et les troupes loyales au président Salva Kiir. Pour l'heure, le calendrier du déploiement des nouvelles troupes internationales n'est pas connu. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a visité samedi un camp de déplacés dans la capitale sud-soudanaise. C'était l'occasion de voir les conséquences humaines de l'échec des leaders politiques à rétablir la paix dans leur pays, a déclaré l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Power.
Au Mali, limogeage du ministre de la Défense et des anciens combattants Tiémane Hubert Koulibaly. Il a été remplacé par Abdoulaye Idrissa Maïga, précédemment ministre de l'administration territoriale. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le limogeage du ministre de la Défense et des anciens combattants peut avoir plusieurs raisons. Mais la plus récente n'est autre que la prise de la localité de Boni dans la région de Mopti par les assaillants. Avant Boni, il y a eu l'attaque de Nampala, les scandales de détournement des primes des militaires par la hiérarchie, les malaises chez les troupes, tout cela sans oublier le fait que le ministre de la Défense n'a pas pu avoir une carte sécuritaire du Mali et de définir une stratégie militaire de défense cohérente face aux enjeux. Toutes ces insuffisances ont fini par avoir raison du ministre de la Défense qui a été renvoyé du gouvernement le samedi dernier. C'est dire aussi que la tâche ne sera pas facile pour son successeur, Ablaye Idrissa Maïga, qui n'aura plus droit à l'erreur. Jusque-là, Tiémane Koulibaly avait résisté à tous les remaniements ministériels. Cela de la transition de 2012 à nos jours. A rappelé tout simplement que les militaires maliens et gendarmes sont de retour dans la localité de Boni qui avait été occupée par les assaillants. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Campagne présidentielle américaine 2016, poursuite de la controverse sur les emails de la candidate démocrate Hillary Clinton du temps où elle était secrétaire d'État, donc chef de la diplomatie américaine. Le FBI a publié les documents relatifs à son enquête sur cette affaire. Timothée Nonangmaï.
La police fédérale américaine a dit avoir pris cette décision à la suite de plusieurs requêtes introduites sous le Freedom of Information Act, la loi pour la liberté d'information, qui fait obligation aux agences fédérales de fournir leurs documents à la demande. Les documents publiés par le FBI incluent une synthèse des propos de la candidate démocrate aux enquêteurs du FBI, de même qu'une description chronologique de la démarche de la police fédérale ayant abouti à la décision de ne pas recommander de poursuites criminelles contre Mme Clinton. Selon ces documents, la candidate démocrate a dit ne pas se rappeler d'avoir reçu des instructions précises du département d'État concernant les emails et n'avoir pas requis une permission spéciale pour utiliser un serveur privé pour ses communications, des aveux qui ne manqueront pas de relancer cette controverse dont l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton éprouve tant de mal à se défaire.
Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.